antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h23, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Ça fait du bien de faire un petit peu de pub pour sa ville natale quand même. On n'oublie jamais d'où on vient, chers amis. Les racines, c'est très important. Donc, quelle que soit la ville où vous soyez né, eh bien, n'oubliez jamais d'où vous venez, et parce que ça compte dans toute une vie, croyez-moi. On accueille Karl maintenant au 3921. Bonsoir Karl.
Bonsoir Olivier, bonsoir les auditeurs d'Europe 1.
Alors Karl, je crois que vous vouliez réagir à l'émission d'hier par rapport à certains témoignages d'hier. Dites-moi.
Ben, j'étais encore une fois très sensibilisé, très touché par rapport aux parents qui se battent pour la garde de leur enfant.
Oui.
Et qu'une fois que ces enfants sont placés dans un système, pour moi c'est un système, qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance. Et là, pour s'en sortir, c'est hyper compliqué. L'aide sociale à l'enfance a besoin de ses enfants pour se nourrir. Quand je dis nourrir, c'est pour pouvoir garder des emplois dans ces zones départementales qui sont l'aide sociale à l'enfance. C'est toujours géré par les départements. Et puis il y a des départements qui gèrent mieux, qui ont plus de compréhension pour l'enfance maltraitée, pour l'enfance en général, et c'est pas toujours des enfants maltraités, et d'autres départements où ça fonctionne pas du tout. J'ai vécu un truc, une vie assez mouvementée de ce côté-là, c'est-à-dire que j'avais un ami qui était devenu directeur adjoint d'un centre départemental à l'enfance, qui m'a demandé de remettre de l'ordre dans la boutique, c'est-à-dire qu'ils accueillaient des nourrissons jusqu'aux jeunes adultes. Donc j'ai fait toutes les étapes, j'ai pas compris grand-chose de ce qu'ils voulaient, et j'ai remarqué que les éducateurs, ce n'étaient pas des éducateurs, c'était tout simplement des gens qui, quand un enfant arrivait, qui avait été certes maltraité, qui arrivait, on lui disait, voilà le règlement intérieur. Et tu appliques ou tu appliques pas. Et j'ai vu un nombre d'enfants avec des valises à la main qui demandaient qu'à partir, rentrer à la maison ou partir ailleurs. Les éducateurs de ce foyer dont je parle ne tenaient pas compte que ces enfants n'étaient pas là pour
respecter un règlement, déjà. Enfin, si c'est l'un des premières paroles que ces enfants entendent, avouez, Karl, que ça commence pas très bien déjà lorsque ces enfants...
C'était ça, Olivier, c'était ça. Mm-hmm. Voilà le règlement intérieur. Et quand je voyais ces gamins qui étaient complètement paumés, quoi, hein, où on leur lisait et on leur demandait de signer ce règlement intérieur, moi ça m'a perturbé, quoi. J'étais là pour remettre de l'ordre. Mais quel ordre? Donc il fallait que je me batte contre l'équipe pédagogique en disant, mais attends, ces enfants, ils n'y peuvent rien. Accueillez-les, et essayons de voir ensemble ce qu'on peut faire. Ces enfants, ils étaient là, c'était un foyer d'urgence, hein, donc ils étaient placés pour 3 mois, avant que le juge des enfants décide d'une orientation ou peu importe, et c'était de la grande folie, quoi, si vous voulez. C'est orienter un enfant qui est placé là pour 3 mois, puis de dire je t'oriente vers ceci, famille d'accueil, ou je te mets autre part. Donc, et les éducs jouaient le jeu, quoi. Hein. Ils ne voulaient pas se faire chier, si je peux me permettre. Mais l'équipe éducative, dans ce centre département dans l'enfance dont je vous parle, c'était honteux. Honteux. On me demande de remettre de l'ordre, j'attaque donc l'équipe éducative, et en même temps, ça remonte vers la direction, et en même temps, j'attaque la direction, parce que l'enfant est complètement oublié dans ce système.
Oui, oui. Ces éducateurs, en fait, étaient leurs référents au début, quel rôle ils avaient ?
Olivier, on a eu du mal. Ils avaient des référents à eux.
Oui.
Avant que le foyer lui-même, le CDE, mette en place aussi des référents. D'accord. Donc, dans le foyer, ces enfants, ça dépend du nombre de dossiers que chacun avait, quoi. Et puis, voilà, je suis référent de celui qui vient d'arriver. Ou... Toujours une histoire de dossier.
Mais on évoque souvent, hein, sur cette antenne, la problématique humaine d'un référent, déjà. Donc, on disait hier soir encore que, imaginez, lorsque ça ne marche pas avec ce référent, pour multiples raisons, en plus, ça n'est pas obligatoirement parce que ce référent est mauvais, mais il peut très bien, ça ne peut très bien ne pas coller, soit avec l'enfant, soit avec les parents.
Olivier, c'est normal. C'est normal.
Oui, c'est normal.
On n'accroche pas avec tout le monde, quoi, si vous voulez.
Bien sûr, bien sûr.
J'adhère ou j'adhère pas, si vous voulez, quoi. J'ai un refus, mais non, on persistait, je suis ton référent, quoi. J'ai vu des situations, mais aberrantes, qui me faisaient mal, qui m'ont touché, quoi. J'ai pas voulu rester longtemps, puisque c'était le directeur de ce centre départemental qui m'a demandé de venir chez lui. Et je me suis dit, je vais regarder ce qui se passe, puis après je repars. Mais non, je suis resté. Je suis resté parce que j'avais une enfance maltraitée. Mmh. Non pas simplement par les parents, mais aussi par ce système de d'hébergement, si vous voulez, de ces enfants. Soit que tu suis, soit que tu suis pas, quoi. Sans ça, tu dégages. Je vais trouver une autre. Je n'ai pas connu un seul enfant qui était. Il y en a eu beaucoup qui étaient pas mal, qui étaient mal dans leur peau. Je n'ai pas connu un qui avait la valise à la main en se disant, de toute façon, je vais partir. Et puis, le problème recommence ailleurs, quoi. On n'a rien résolu.
On n'a rien fait avancer, vous voulez dire, aussi ?
Bah oui, on n'a rien résolu. C'est dur ce que je dis. Je préfère la phrase que vous venez de dire. On n'a rien fait. Mais c'est complètement dingue. J'entendais Philippe, c'est Philippe, je crois.
Oui, exactement. Ce papa qui aime son... On sent, en plus, on sent que, pour le coup, avec Philippe, qu'on a eu pour la deuxième fois hier, on sent clairement que cet enfant serait beaucoup mieux avec son père. Il manifeste ce refus d'être dans ce système.
Mais c'est un système qui est complètement aberrant. Il n'y a aucun fonctionnement, si vous voulez, de compréhension de l'enfance. Je vais très loin quand
c'est
je dis
c'est
ça.
Grave, hein, ce que vous dites, Karl, quand même.
Oui, je sais.
Parce que on le dit aussi sur cette antenne, il y a bien évidemment des situations qui concernent des enfants qui sont mis en danger par des parents au comportement dangereux. Il y en a. Mais il y a aussi des enfants qui, par mesure de précaution, sur signalement, sont enlevés à des parents qui viennent témoigner sur cette antenne. Hein. Et on voit la galère totale pour récupérer son enfant quand il y a des suspicions qui naissent sur vous en tant que parent. Et ça...
Olivier, j'ai la chair de poule quand vous me dites ça. Sincèrement, moi, c'est un foyer d'accueil d'urgence. Hein. Donc l'urgence, c'est pareil aux hôpitaux. On fait un bilan et puis après, on voit ce qu'on peut en faire. J'ai eu un gamin de 6 ans. Trois policiers viennent le chercher à l'école.
Oui.
Quel traumatisme pour le gamin, quoi.
Ils viennent le chercher à l'école, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un signalement des parents ?
Un signalement, oui. Bon, les parents étaient fautifs ou je ne sais rien.
Oui,
On l'apprendra après, quoi, si vous voulez.
Pourquoi des policiers viennent à l'école ce jour-là, alors dites-moi. Vous savez
parce
pourquoi ?
Parce que l'enfant était en danger.
D'accord.
D'après nos institutions, si vous voulez, quoi. Hein. Mm-hmm. Mais on ne va pas chercher un gamin de 6 ans avec trois policiers
à
l'école.
Non, c'est sûr que...
C'est, ça me bouleverse, ça. On aurait pu attendre la fin de l'école, et puis vient mon gamin, et puis il a été placé chez nous, ce gamin-là. Traumatisé, mais traumatisé, quoi. Mmh. Et je me suis dit, mais ce gamin-là, à 16 ans, il va falloir un escadron de flics pour aller le chercher après, quoi. L'image qu'on donne de notre société, elle n'est pas valable. Un enfant qui est placé, c'est un enfant qui est en souffrance.
C'est un enfant qui doit être d'abord protégé, et...
Il est d'abord en souffrance, Olivier.
Oui, il est d'abord en souffrance, bien évidemment. Bien évidemment.
Et là, essayer de comprendre sa souffrance pour pouvoir... moi, j'ai eu pas mal de juges pour enfants. J'ai une juge par enfant que j'admirais parce qu'on arrive à travailler d'une manière cohérente ensemble, sans laisser tomber la famille. C'est-à-dire qu'on essaie de recréer ce lien familial. Elle était partante dans ce cas-là. J'ai rencontré des juges pour enfants qui étaient vraiment des imbéciles, mais vraiment des imbéciles, j'ai pas honte de le dire, quoi. Des trucs de fou, quoi. Hein, où on s'imaginait quelque chose qui était même pas valable. Où ces enfants-là, ils souffraient, c'est sûr. C'est sûr. Ils avaient un mal-être. Donc il fallait redisser un lien entre les parents et cet enfant. Mais pas les placer, quoi, je veux dire. C'est pas les placer. L'État français, c'est... Voilà, je vais très loin maintenant, de nouveau. Alors, on avait dans le temps ce qu'on appelait la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse.
On l'a toujours.
Oui, mais bon, avec combien d'éléments Oui. Avant, on avait ces éducateurs qui étaient capables de retisser le lien familial, d'aider les parents à leur rôle de parentalité. Et puis, bon, il n'y en a pratiquement plus, quoi, si vous voulez. Hein. Moi, je pense que la reconstruction d'un enfant placé, peut-être qu'il faut le faire au départ, peut-être, j'en sais rien. Mais ce qu'il faut faire, c'est tisser le lien familial, de faire comprendre à la famille, aux parents, que cet enfant, ben, c'est le tien, quoi. C'est pas nous qui allons l'éduquer. Nous, on peut lui donner des choses,
Des bases.
Un traçage, si vous voulez. Ouais, des bases. On peut leur donner ça. Mais tout part de la famille. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut, à un moment donné, que les familles maltraitantes, entre guillemets, hein, je crois. Vous savez, il y a une fille qui a été placée parce que la maman, elle travaillait la nuit.
Oui.
Et c'était une femme seule. Elle avait cette fille, donc elle travaillait la nuit, elle rentrait le matin, et puis ben, elle n'avait qu'une envie, c'est de dormir. Et puis sa fille, ben, elle était un peu vouée elle-même. Donc, envie de l'école ou pas d'envie d'aller à l'école. Et il y a eu un signalement qui a été fait, parce que cet enfant était absente souvent de la scolarité. Je ne comprends pas, là, si vous voulez. C'est la mère qu'il aurait fallu prendre, et pas l'enfant. Et cette gamine est arrivée chez nous. Et la mère n'acceptait pas cette séparation non plus.
Bah, on peut se mettre à la place d'une mère célibataire qui est infirmière, qui n'a pas choisi, hein, peut-être d'être infirmière de nuit, qui s'en sort comme ça, et à qui on enlève sa gosse parce que sa gosse manque l'école, parce qu'elle profite du fait que sa mère soit très occupée au travail.
C'est même pas profiter, Olivier.
Mais elle n'allait pas en cours. Pourquoi, cette petite?
Parce que la maman n'était pas là le matin pour la réveiller.
Oui, c'est ça. Bah, donc, oui, bon, alors qu'il profitait...
C'est pas un profit, Olivier.
Non.
Je ne veux pas vous agresser.
Non, pas du tout. Quel âge avait-elle, cette petite?
Elle avait, quand on est arrivé chez nous, 16 ans.
Oui, non, mais donc, c'est bien ce que je dis. À 16 ans, elle est capable de se mettre un réveil. Pardonnez-moi.
Oui.
Mais elle est capable de se réveiller le matin pour aller à l'école. Vous êtes d'accord?
Mais elle jouissait elle jouissait de, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais on peut pas accuser la mère.
Non, bah c'est bien ce que je vous dis. On peut ni accuser la mère, ni l'enfant, hein, même si elle a 16 ans et que c'est une ado.
Mais c'est cette problématique-là qui existe. Allez, je vais aller jusqu'au bout. Je vais vous raconter l'histoire, Olivier. J'ai une gamine qui est arrivée chez nous. C'est les gendarmes qui nous l'ont ramenée. Et cette fille avait des bleus partout, elle n'était pas bien. Et puis les éducs qui étaient là, règlement intérieur, voilà ta chambre, voilà, quand elle est arrivée, j'ai dit on se verra demain. Et puis j'ai pas pu résister, j'ai dit on se voit ce soir, et puis on s'est vu ce soir. Donc c'est une fille qui a été battue par son père. Ça a même été plus loin que ça. Au bout de 3 mois, j'ai découvert que là aussi, il y avait des choses qui n'étaient pas très claires, si vous voulez. Hein. J'avais des suspicions d'inceste.
Ouais.
Mais bon, j'ai jamais pu le prouver. Et c'était un Allemand, ce mec-là. Et comme je suis bilingue, on me demandait d'assister quand il se voyait. Donc le père ne pouvait pas voir. sa fille sans éduc, quoi, ou sans personnel de l'établissement. Et cette gamine, elle était coupée en deux, quoi, si vous voulez. Elle n'a jamais voulu dire ce qui se passait vraiment avec son père. Et j'ai essayé de discuter avec le père qui lui refusait, oui, c'est cogné sur l'armoire en bas, en descendant, etc. Je suis mal avec ce genre de situation. C'est même pas mal, c'est que j'ai une colère, si vous voulez, en moi, quoi. Hein. Mais dis-le, quoi, si ça marche pas. Et cette gamine, ben, elle a été placée au mois d'octobre dans ce foyer. Et puis, il y a Noël qui est arrivé. Et puis, elle me dit, mais je fais quoi? J'aimerais, j'ai pas envie de rester à Noël dans ce foyer. Cette gamine, elle avait 17 ans, gamine, l'adolescente. Elle avait 17 ans. Et elle me dit, mais j'ai pas envie de rester au foyer. Ben, j'ai fait un truc complètement dingue, complètement en dehors de tout règlement, en dehors de tout ce que vous voulez. Ben, je lui ai dit, écoute, tu fugues, j'appelle ta mère, elle va te chercher au... Sa mère était en Allemagne, tu viens chercher ta fille et tu me donnes des nouvelles tous les jours. Et moi, je déclare ta fille en fugue. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? C'est qu'elle a retrouvé une mère. Et qu'elle a commencé à comprendre que le père, ben, c'était pas tout à fait ça.
Oui.
Ils se sont partagés les enfants entre eux, quoi, si vous voulez. Il y a des choses qui sont pas dingues. Et puis, ben, cette gamine, ben, elle a retrouvé une mère. C'est quand même génial. Mais si je restais dans le même système, ce que nous demande l'État, ben, j'avais tout faux.
Mais c'est surtout que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, vous savez, de prendre cette décision.
J'ai pas le droit, oui. Mais j'étais complètement en dehors, dehors de toute légalité,
complètement,
si vous voulez.
Complètement. Mais preuve est que dans ce que vous avez fait, vous n'avez juste que fait confiance à cette mère et fait confiance à cet enfant. Et au final, ça a payé. Donc,
bien sûr.
Donc nous en revenons au début de cette conversation à redire que le fonctionnement des référents de l'ASE et de ces foyers. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ces foyers. Il y a un bouquin de Liès qui est sorti sur ces foyers il y a maintenant plus d'un an, hein, je crois.
Oui, je l'ai vu. Ouais.
Bon, et ça bouge très lentement, toutes ces histoires. On a quand même une institution... On a une institution qui manque de moyens, donc tant que ces moyens ne seront pas attribués, eh bien on aura des destins brisés. C'est aussi bon pour cette justice-là de l'enfance que pour la justice familiale. Alors on a un nouveau ministre, on a un nouveau garde des Sceaux qui peut-être a une vue plus moderne et plus globale de toutes ces problématiques. Souhaitons-le en tout cas, souhaitons-le.
Oui, souhaitons-le, oui. C'est quelqu'un que... que j'admire, si vous voulez, sur ses prises de position, sur la défense des victimes, etc., etc.
Il a, on peut lui reconnaître en tout cas une grande humanité.
Oui, il n'y a aucun souci.
Et que cette justice concernant la famille, hein, et souvent la famille, les jeunes, ses enfants, a besoin, mais fortement d'être réformée. Souhaitons que ça avance.
Olivier, j'ai encore une anecdote à vous raconter, que j'ai trouvée aberrante. On avait un gamin dans ce foyer, qui était un gamin qui nous a ramenés aussi. Il était asthmatique, il faisait de l'eczéma, etc. Ce qui est lié, quoi. Et puis là, il a un peu foutu le bordel dans le foyer. Comment vous dire, il est passé à des actes sexuels non compréhensibles. Donc il est arrivé chez nous, et ce gamin-là, complètement perturbé, quoi. Hein, et quand on... Je vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que si on remonte dans la famille, il y a des choses aberrantes, etc. Effectivement, c'est un gamin qu'il fallait placer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le placer en l'accusant de délinquance sexuelle, ça me convenait pas, quoi. Hein. C'était ce qu'il avait vécu à la maison, si vous voulez. Hein, ce côté un peu... sexuel, pervers, tout ce que vous voulez. Et Donc il est arrivé chez nous. Je l'ai eu en tant que référence, ce gamin-là.
Oui.
J'accrochais très bien avec lui. Et puis, l'aide sociale à l'enfance, pour ne pas la nommer, décide d'embarquer ce gamin à Paris dans l'association de Caral Bouquet, enfants maltraités et enfants traités. Et ce gamin va là-bas. Et l'ASE, il va avec un psychologue, une éducatrice référente, avec un chauffeur, et le gamin. Et puis le gamin rentre, je lui dis alors, ça s'est passé comment? Il me dit, ben, on s'est mangé chez McDo, c'était sympa. Pas mal quand même, hein?
Oui.
Comme notion, si vous voulez, de soins. Et puis il y va plusieurs fois, il y va maintes fois, puis un jour il me dit, j'ai plus envie d'y aller. Je dis, écoute, moi je suis ton référent dans le foyer, mais je ne suis pas référent aide sociale à l'enfance. C'est eux qui gèrent ton problème, quoi. Hein. C'est eux qui décident où tu vas ou tu ne vas pas, quoi. Hein. Et ce gamin me dit, j'y vais plus. Et là, on me demande d'y aller. Je dis, non, j'y vais pas. Pourquoi faire? Je ne sais pas ce que je pourrais rapporter plus que... Allez, je donne le nom, Patrick. Je ne peux pas en donner plus que Patrick a fourni. Et là, je me prends le chou avec l'aide sociale à l'enfance. On appelle le juge l'aide sociale à l'enfance appelle le juge des enfants en disant que moi, je refusais de collaborer. Déjà, ce mot-là, ça m'a un peu agacé parce que je ne collabore pas. Je suis là pour un enfant et si l'enfant n'a pas envie d'aller où que ce soit, par obligation, moi je peux pas lui obliger. Donc après ils ont convoqué les parents, etc., etc. Et moi j'ai trouvé une structure qui s'appelait Boxing. C'est un psychiatre que j'ai connu dans le temps et qui faisait 3 minutes de boxe intense. Après on en parle, puis après on se balade. Et ce gamin, quand il est revenu la première fois de ça, il m'a dit, Karl, c'est là que je restais. Mais ça a coûté du pognon fou par rapport à ses éduques, l'éducatrice, la psychologue, le chauffeur et tout le merdier, et aller bouffer chez McDo, ça a coûté un pognon fou pour l'aide sociale à l'enfance. Et quand je leur ai proposé ce truc de boxe, ils m'ont dit, ça coûte trop cher. C'était juste à côté, quoi. Mais c'était pas leur idée. C'était pas leur référence. Est-ce que je me fais comprendre?
Oui, complètement.
Et c'est là que ça devient complètement dément dans le système de prise en charge de l'enfance maltraitée ou de l'enfance en général, quoi. Et ça m'agace. J'ai 70 ans, je suis en retraite, mais je suis toujours encore... J'étais bouleversé hier soir. Hein. Et ça m'agace parce que ça n'avance pas. J'ai été voir de plusieurs pays où ça se passait autrement, ou voir comment ça se passait dans d'autres pays, en Norvège, en Suède, en Allemagne, en Irlande, en Espagne. J'ai découvert des choses complètement aberrantes aussi dans ces pays-là, si vous voulez. Mais chez nous, c'est un fonctionnement étatique. Mmh. Si on rentre pas dans, si l'enfant ne veut pas rentrer dans le système, ben il est exclu. Non mais c'est sincère, j'avais un gamin qui était diabétique que j'aimais beaucoup, il me faisait de la peine, il avait une intelligence incroyable et un savoir aussi, il était diabétique, il en jouait à fond. Et personne ne comprenait pourquoi il jouait avec son diabète. Un gamin intelligent. Et aujourd'hui, il est quoi, clochard, là, quelque part, dans l'Est de la France? Mais c'est honteux. À 18 ans, on lui dit, ça y est, t'es majeur, fini, casse-toi.
Mm-hmm. C'était le témoignage de...
D'hier,
cette maman, de Nathalie, je crois, qui nous a appelés en fin d'émission.
C'est ça qui est fou, quoi.
Mmh. Mais ça fait des années hein, que ça dure, Karl. J'ai un SMS qui n'est pas signé, qui dit « À votre antenne, des gens dénoncent de plus en plus de dysfonctionnements. Vous compatissez, certes, mais engagez-vous plutôt à prendre rendez-vous avec un député ou voir un ministre. utiliser votre célébrité, bon, pour alerter directement. Mais chers amis,
j'aime bien. Olivier, je l'ai fait. Olivier, je l'ai fait ça.
Non, mais j'aime bien recevoir un SMS comme ça parce que non, cette libre antenne, elle n'est pas faite pour les ministres ou les députés, où ils peuvent appeler s'ils en ont envie directement. Elle est faite pour n'importe qui. Et je n'ai pas à demander d'appeler moi-même ou que nous appelions ici à la libre antenne un député. D'abord, un député, il ne saura rien du tout. Il nagera complètement dans ces choses-là. Donc voilà, je réponds à ce SMS qui est un peu un SMS qui voudrait avoir du sens, mais qui n'en a pas vraiment. Mais on pourrait parler comme ça, bien évidemment, pendant longtemps, car il y a encore beaucoup de monde qui nous appelle au 3921.
J'entends bien, Olivier.
Donc
c'est
je vais
normal.
Être obligé de vous quitter. Olivier, merci.
Olivier, j'ai juste une dernière phrase. J'aimerais bien vous rencontrer pour qu'on puisse parler de tout ça, parce que je sais que vous êtes engagé dans ce système. J'aimerais bien vous raconter mon histoire.
Eh bien, vous me la raconterez, si vous voulez, Karl. Vous me la raconterez.
Non, mais c'est sincère. J'ai commencé en toxicomanie, j'ai terminé avec l'enfance maltraitée. J'ai un vécu de travers social. Et je souffre du mal-être de ce que l'État ne fait pas.
Mmh. Vous savez quoi, Karl ? Ne raccrochez pas. Florian, je vais vous passer Florian. Il va vous donner notre adresse mail et vous allez pouvoir nous adresser au moins quelques lignes.
Non, mais il y a des choses quand même importantes. Que même la toxicomanie, on n'a rien suivi. Le sida, on n'a rien suivi. Notre système de santé, de prise en charge, on parlait de l'enfance, mais d'autres choses, foire complètement, Olivier.
Je suis d'accord, Karl.
Je sais que vous êtes engagé de ce côté-là.
Oui, et on aura, si vous voulez bien, une autre occasion d'en parler. On en parle souvent de tout ça sur cette antenne, mais j'en parlerai, bien je serai ravi d'en reparler avec vous. D'accord ?
Merci beaucoup, Olivier.
Je vous en prie. Vous ne raccrochez pas, Florian va vous donner une adresse mail ou nous
Merci.
Joindre directement.
Merci, Olivier.
Bonsoir, Karl. Merci, au revoir.
Au revoir.